Encore une fois, je vais donner la parole à Geneviève Barry-Gingras de l'Université Laval, chercheuse, qui va terminer. Et à partir de ça, on prendra la période de questions. Merci. À toi, Geneviève.
Oui, merci. Je vais partager mon écran simplement pour me faciliter la présentation. Est-ce que vous voyez mon écran? J'aurais juste besoin d'un signe de tête de quelqu'un.
Oui, c'est
Oui,
bon, il n'y a
c'est
pas de problème.
super. OK, merci beaucoup. Donc, je vais essayer de ne pas répéter là, ce qui a été déjà dit et bien dit par mes collègues. Donc, ce que je vous présente, c'est un point de vue basé sur mes propres travaux, surtout dans des études sur l'action syndicale en santé et sécurité, sur la représentation des travailleurs et des travailleuses en matière de santé et de sécurité, sur également les commentaires appuyés sur un état des connaissances qu'on a formulé dans un mémoire de l'équipe santé, genre, égalité, donc une équipe de recherche dirigée par ma collègue Jessica Riel à l'UQAM. Donc, un mémoire qui portait sur le contenu du projet de règlement. Et je vais vous parler en particulier là, de la partie de ce mémoire-là qui s'intéresse à quelles sont les conditions pour que la représentation des travailleurs non syndiqués soit plus que, je dirais, de la conformité de papier. Et donc que ça se concrétise réellement, puis que ça puisse aboutir dans des changements concrets dans les conditions qui affectent la santé là, au jour le jour. Donc, comment on peut faire pour renforcer les conditions d'une représentation collective qui soit efficace dans les milieux non syndiqués? Donc, alors, la théorie, puis je pense que ça fait le lien avec ce que David Mandel vient de présenter, la théorie derrière la loi sur la santé et la sécurité du travail, c'est que ben on crée l'occasion pour les employeurs et les travailleurs de se rencontrer, d'avoir un lieu pour discuter de santé et sécurité du travail. Puis ça, ben ça génère des mesures préventives, ça améliore la santé et la sécurité. C'est bon pour les employeurs parce que ça réduit les lésions indemnisées, donc les coûts pour eux. Puis donc, l'idée derrière tout ça, c'est que initialement, la théorie implicite de la loi sur la santé et la sécurité du travail, c'est qu'en créant ces mécanismes-là, on venait équilibrer en quelque sorte le rapport de force entre travailleurs et employeurs en créant l'espace de discussion, qui restait une création volontaire. Hein. Il fallait que ce soit demandé par le syndicat ou par un certain nombre de travailleurs. Mais là, c'est devenu obligatoire. Donc, on relève la barre un petit peu. Puis donc, progressivement, le discours derrière le régime, en l'absence d'extension de la loi, c'était plutôt que la santé et sécurité, c'était bon pour les affaires. Puis que donc, les employeurs avaient tout intérêt à s'en occuper. Puis donc, finalement, un peu comme si c'était essentiellement un enjeu technique, puis que ben les employeurs éclairés allaient se rendre compte que ben c'était tout à leur intérêt de s'en occuper. Bon, dans les faits, le monde du travail a changé ça explique d'une part les difficultés d'application du régime qui était initialement pensé comme si on était dans la situation de la Suède, la Finlande, la Norvège, le Danemark avec des taux de syndicalisation extrêmement élevés. Ce sont d'ailleurs par ailleurs les pays où il y a le moins d'accidents mortels, où les indicateurs de santé sont les meilleurs. Le contexte est détérioré parce qu'on a vu apparaître ou le retour de différentes pratiques d'externalisation des risques. Donc, c'est ce qu'on voit ici, là. Il n'y a pas juste un employeur puis ses propres travailleurs, mais il y a des travailleurs de plus en plus précaires, puis il y a aussi parfois des travailleurs d'agence, donc des travailleurs qui sont pris dans une relation triangulaire où ça devient compliqué de savoir qui est responsable de quoi. Puis dans les faits, ben la théorie implicite là, qui parlait d'une convergence d'intérêts, ben oui, parfois c'est vrai, l'employeur il voit directement son intérêt agir pour améliorer les conditions de réalisation du travail, puis réduire les risques pour la santé, mais c'est pas toujours le cas. Puis parfois, ben, c'est comme dans le modèle d'affaires, là, qu'il va y avoir du roulement, puis entre autres parce que les conditions sont trop difficiles. Donc, j'ai mis des petits éclairs un peu partout là, pour dire que les comités ne marchent pas nécessairement bien d'emblée, justement à cause du fait que cette convergence-là d'intérêts, elle n'est pas nécessairement présente systématiquement. Les mesures préventives qui sont appliquées ne sont pas nécessairement les plus efficaces. On mise beaucoup sur le contrôle des comportements des travailleurs. Puis, ben, il y a d'autres moyens pour les entreprises de faire réduire les lésions indemnisées. C'est toutes sortes de stratégies de gestion de l'indemnisation. Puis, finalement, par exemple, les agences de location de personnel, ça permet que ce soit pas l'entreprise cliente qui assume. Puis, bon, vous êtes au courant de l'ampleur de la sous-déclaration. Donc, en gros, en prévention, on peut dire que oui, l'employeur parfois initie des mesures préventives, en particulier les plus grandes ont plus de moyens de planifier, etc. Mais on voit que certaines grandes entreprises, comme Amazon, pour pas la nommer, ben, il y a ce roulement-là qui est comme intégré là, à sa stratégie d'affaires. Parfois, ça passe par des comités de santé et sécurité, parfois, ça passe par le contrôle externe, par l'inspectorat, mais derrière tout ça, ce qui, historiquement et concrètement, au jour le jour, c'est la mobilisation des travailleurs qui fait la différence et qui initie les changements. Puis, je prends le temps de faire un tout petit point sur le fait que qu'est-ce qui fait la différence? Quelles sont les pratiques les plus efficaces, des travailleurs organisés syndicalement pour agir en prévention? C'est pas nécessairement juste de passer par le comité de santé et sécurité, c'est tout le temps qui est passé sur le terrain pour interagir avec ses collègues, pour comprendre les problèmes, puis pour interagir au jour le jour avec les superviseurs, tout ça pour faire changer des choses. Et donc, et puis c'est surtout le fait qu'il y a une action autonome syndicale en matière de prévention. Alors là, je vous parle d'action syndicale, évidemment, là, si on passe au milieu non syndiqué, comment faire pour reproduire ce modèle-là qui est celui qui est efficace? Ben, ça pose des grands défis parce que ben, il n'y a pas d'emblée de structure de représentation. Fait que l'efficacité de la participation des travailleurs, ça va reposer sur des conditions qui sont difficiles à réunir. Donc, un processus d'élection qui soit démocratique, auquel tout le monde peut participer sans risque de sanction, la possibilité de délibérer, un vote sans avoir délibéré avant, c'est difficile d'imaginer que ce soit un vote vraiment démocratique. Donc, des possibilités de communication, l'imputabilité des personnes qui sont élues, donc que ce ne soit pas une élection presque à vie. Puis je reviens avec l'idée des résultats de recherche là, qui sont solides, l'idée de pouvoir avoir son propre agenda basé sur les préoccupations des travailleurs. Et pour ça, le soutien externe. Par exemple, d'une centrale syndicale pour les travailleurs syndiqués, c'est important, puis aussi d'avoir une protection effective contre les sanctions. Alors, comment on fait pour que ces conditions-là soient présentes? Ben, c'est difficile. Donc, je pense que les obstacles, il faut savoir qu'ils existent. La seule existence d'un comité de santé et sécurité, là, le fait qu'on puisse cocher, oui, il y en a un chez nous, ça ne suffit pas à ce que ce comité-là soit efficace. Il y a plusieurs obstacles qui ont été bien documentés. Des obstacles et des conditions facilitantes. Puis, on ne peut pas présumer que ça va être nécessairement bien accepté par les employeurs parce que si on se base juste sur les infractions qui existent aux normes minimales du travail, ben, on sait que ces infractions-là peuvent être assez importantes. C'est des études faites par la Commission des normes du travail dans le temps où on voyait le non-paiement du temps de réunion qui se tient en dehors des heures régulières de travail, là. C'est des pourcentages assez élevés. Puis, il y a plusieurs études qui documentent aussi les craintes et les sanctions réellement vécues par des travailleurs qui tentent d'exercer leurs droits en matière de santé et sécurité. Donc, il y a des enjeux importants qui expliquent les difficultés qu'on peut anticiper. Dans le règlement, on a vu le rétrécissement des heures de libération. C'est sûr qu'on peut imaginez qu'il y a l'enjeu des coûts de libération, mais derrière tout ça, l'idée d'un représentant santé et sécurité, puis de travailleurs qui sont élus, Bien, il y a certainement la crainte d'atteinte au pouvoir de direction ou au droit de gérance, qui peut expliquer la résistance de grandes associations d'employeurs, mais aussi de l'État employeur. Bon, là, dans ce cas-là, les travailleurs sont largement syndiqués, mais donc la pression pour réduire les coûts et la portée là, des nouveaux droits, là, elle vient aussi de là. Donc, vous savez, les non-syndiqués, c'est beaucoup de monde. Puis, dans le secteur privé en particulier, le taux de syndicalisation des femmes il est particulièrement bas. Et on dirait que c'est comme pas pris en compte les difficultés que peuvent avoir les non-syndiqués à utiliser leurs droits. Puis, encore moins, comme le disait Pierre, les travailleurs d'agence, par exemple, doivent être comptés pour savoir si on atteint le 20 travailleurs nécessaires pour mettre en place un comité de santé et sécurité. Mais après ça, on ne dit plus rien sur comment ils font, eux, pour faire entendre leur voix. Parce que hein, le but de la représentation des travailleurs, c'est bien ça, c'est faire entendre sa voix le plus collectivement possible. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut penser que, il y a quand même une protection dans la loi, il y a les inspecteurs qui peuvent venir dire aux employeurs, non, ça va pas. Il faut que vous respectiez ces droits-là. En fait, il y a des obstacles là aussi parce que le nombre d'inspecteurs y est réduit relativement à l'augmentation du nombre de travailleurs, du nombre d'établissements. Donc, c'est un nombre à peu près inchangé depuis les débuts du régime. Et on l'a vu même particulièrement par rapport à l'implantation des nouveaux mécanismes de participation, les orientations privilégiées par la CNESST. Dans ces documents propres, internes, qui ont été obtenus par des demandes d'accès à l'information, ont privilégié l'idée de convaincre et de soutenir versus l'idée de contraindre et éventuellement de donner des avis de correction. Puis ça s'explique aussi la difficulté à faire un suivi de la part des inspecteurs sur ça par les orientations de nouvelle gestion publique qui font en sorte que on privilégie le nombre de visites, puis éventuellement en annonçant les visites à l'avance. Donc ça joue pas en la faveur des travailleurs non syndiqués en particulier. Je veux juste donner quelques résultats très rapidement de notre étude sur les entrepôts de Dollarama et Amazon, donc des entreprises non syndiquées, Dollarama faisant appel exclusivement à notre connaissance à des travailleurs d'agences de location de personnel. Donc, ce qu'on a constaté en comparant avec les entrepôts syndiqués pour lesquels on a fait aussi des demandes d'accès à l'information pour obtenir les plaintes et les rapports d'intervention, c'est qu'il y a beaucoup plus de plaintes hein, dans les entrepôts qui proviennent des entrepôts syndiqués relativement au nombre d'entrepôts, donc 4 à 7 fois plus. Donc, pensez que on va compenser en utilisant le recours à l'inspectorat, c'est illusoire. Et la CNESST, même si elle initie certaines visites dans des milieux de travail non syndiqués, au total, ces interventions reposent beaucoup sur les plaintes plutôt que d'être proactives. C'est en lien avec le nombre d'inspecteurs. Et puis, même quand ils vont dans les milieux de travail, les inspecteurs donnent beaucoup moins d'avis de correction, donc des exigences écrites là, à l'employeur. Ils en donnent beaucoup moins que dans les entrepôts qui sont syndiqués. Même s'ils vont, ils répondent à beaucoup moins de plaintes des travailleurs syndiqués. Ils y vont moins souvent à la suite de plaintes dans les entrepôts syndiqués. Donc, et puis finalement, au total, il y a souvent un écart vraiment important entre ce qui préoccupait les travailleurs puis ce qui est demandé à la fin là, comme changement. Parfois, il n'y a pas d'exigence qui est formulée à l'employeur malgré le fait qu'il y a eu des plaintes. Donc, c'est juste pour dire à quel point c'est important là, de s'occuper de cet enjeu-là. Fait qu'on voulait expliquer là, le projet de règlement énonce ce qui était déjà existant auparavant, c'est-à-dire que lorsque les travailleurs d'un établissement ne sont pas représentés par une association accréditée, les représentants des travailleurs au sein du comité vont être désignés par scrutin lors d'une assemblée qui est convoquée à cette fin par un travailleur de l'établissement, ce qui est difficile de comprendre comment ça va se passer. Donc, un avis 5 jours au moins à l'avance de la tenue de l'assemblée, puis un vote. Puis donc, c'est les personnes qui sont élues là, sont représentées au comité. Et puis, c'est la même procédure là, pour le représentant en santé et sécurité du travail. Alors, je vais te présenter très brièvement les recommandations qu'on a formulées, l'équipe de recherche santé, genre, égalité, puis qui recoupe plusieurs des recommandations qui ont été exposées par les intervenants précédents, là, en particulier par Pierre. Donc, la première recommandation concerne le fait d'assurer des conditions favorables à l'organisation et la tenue d'une assemblée et d'un scrutin. Donc, une obligation explicite pour l'employeur de faciliter l'assemblée et le scrutin en fournissant les équipements, les locaux, en libérant les travailleurs. C'est pas juste ceux qui vont oser y aller, là, c'est qu'on arrête le travail, puis on y va. Que le temps prévu pour l'assemblée soit suffisant, que le scrutin soit anonyme, que l'information sur les résultats soit donnée dans les 10 jours et transmise à la CNESST pour que les élus puissent être rejoints directement par la CNESST. Puis, en particulier, en lien avec l'idée d'un organisme de soutien aux syndiqués, on souhaite qu'il y ait la possibilité d'organisation de l'assemblée, de mise en candidature et de scrutin par un organisme externe indépendant, soit une association sectorielle paritaire ou l'organisme dont on parlait, là, qui serait voué au soutien des travailleurs. Et dans les cas où les travailleurs sont particulièrement vulnérables, où les travailleurs sont non syndiqués, sont issus de l'immigration, les travailleurs étrangers temporaires, les travailleurs d'agence présents dans une proportion significative, là, on pense que ça devrait être systématiquement exigé par l'inspecteur que le processus soit mené par un organisme externe pour assurer l'indépendance et l'organisation réelle, effective, là, d'une élection. On pense aussi qu'il faudrait que la durée des mandats des travailleurs au sein des comités et des RSS soit limitée. Parce que quand c'est les syndicats qui s'occupent de cette nomination-là, ben eux autres même, ils décident de c'est quoi quand est-ce que le mandat se finit, puis ils peuvent dire tu fais pas le travail comme il faut, on va te remplacer. Là, dans le cas des travailleurs non syndiqués, il n'y a pas de durée qui est précisée, donc on prévoit on pense qu'il faudrait qu'il y en ait une. On pense aussi qu'il y ait un mécanisme pour que les travailleurs qui sont loués ou prêtés, donc par exemple des travailleurs d'agences de placement, puissent être représentés, pas juste chez leur employeur qui est l'agence, ce qui est en soi un défi, mais dans l'endroit où ils travaillent. Puis il y a déjà une source d'inspiration pour ça, c'est les comités de chantier. Hein, sur un chantier de construction, il y a souvent un maître d'œuvre et plusieurs entrepreneurs qui assument différentes portions du travail sur le chantier. Et donc, comme dans d'autres juridictions, par exemple en Australie, là, on devrait avoir une structure qui permet de représenter. Bon, évidemment, ça enlève pas la difficulté là, qui est liée au fait que des travailleurs d'agence, c'est quasiment impossible de se syndiquer. C'est très difficile de ne pas d'être protégé des sanctions si on exerce des droits. Donc, c'est un minimum là, ce qu'on demande là, mais le problème reste de la possibilité de faire appel exclusivement à des travailleurs d'agences de location de personnel pour des activités qui n'ont rien de temporaire, là. Par exemple, le fonctionnement d'un entrepôt. En soi, c'est problématique, puis ça a été dénoncé, là, depuis longtemps, puis c'est bien documenté les problèmes que ça pose, là. Je voyais tout à l'heure mon collègue Jean Bernier dans l'assistance, là. Jean, depuis des années, travaille sur ce sujet-là, puis a permis de mettre en évidence ces problèmes. Donc, je termine en parlant aussi de l'enjeu des regroupements multi-établissements. Commenté dans le projet de loi 59, dans notre mémoire précédent, le fait que ces regroupements-là, c'était comme un danger de conformité de papier, donc de faciliter la mise en place de comités qui vont avoir peu de liens réels avec les milieux qui sont supposés représenter. Donc, puisqu'un représentant s'est supposé donner voix à ses collègues, ben, donc on devrait y avoir un critère additionnel appliqué par la CNESST pour les regroupements multi-établissements, c'est-à-dire que le représentant des travailleurs soit facilement accessible et que, il y a des instructions précises de la part de la CNESST pour la tenue d'assemblées de scrutin quand on est supposé représenter des gens qui sont distribués là, géographiquement, là, pas tous dans le même endroit. Et puis, bien, il faudrait renforcer, bien sûr, la protection des travailleurs et des travailleuses contre les sanctions. Donc, on souhaiterait qu'il soit ajouté au règlement une disposition qui obligerait l'employeur à informer les travailleuses et les travailleurs de l'interdiction de mesures de représailles à la suite de l'exercice de leur droit à la participation et la représentation, en détaillant là, tout ce qui est lié à l'organisation, à la participation à l'assemblée, au scrutin ou à l'exercice de ses fonctions. Et puis, bien sûr, ben, c'est bien beau être protégé contre les sanctions formellement sur papier, mais il devrait y avoir un soutien légal, là, comme ça a été expliqué là, par rapport au, comme ça existe pour les normes du travail. Alors, bien sûr, on reprend l'idée d'un organisme indépendant qui soutiendrait les travailleurs non syndiqués. Du financement comme ça existe pour les associations patronales et les associations syndicales. On pourrait répliquer que les associations sectorielles paritaires pourraient donner du soutien aux non syndiqués, mais les ASP, ils interviennent sur la base de demandes paritaires. Donc, c'est pas nécessairement compatible. Et puis, bien sûr, les mutuelles de prévention, entre guillemets, ne sont pas indépendantes des employeurs, donc ça répond pas à ce besoin-là. C'est particulièrement important, tout ça pour les travailleurs des petits établissements qui sont exposés à plus de risques et bien sûr sont moins syndiqués aussi. Alors, je termine avec le fait que tout ça va prendre vie seulement si les travailleurs utilisent les droits qui leur sont donnés, s'il y a un soutien de la part des organisations syndicales auprès de la CNESST pour amener des modifications qui vont soutenir les non-syndiqués, mais ça aussi, ça nécessite qu'il y ait un contrôle réel là, par la CNESST. Donc, ça prend un nombre d'inspecteurs qui soit conséquent. Une formation et des instructions qui vont tenir compte des difficultés particulières des non-syndiqués. C'est pas pour rien là, que les interventions dans les milieux syndiqués débouchent moins sur des avis de correction, c'est que ça doit être très difficile d'intervenir dans un milieu syndiqué où est-ce que s'adresser à un travailleur alors que l'employeur est présent, ben ça implique des risques de victimisation de cette personne-là. Donc, il y a certainement à travailler sur ça. Il faut pas non plus que les comités de santé et sécurité qui existent déjà soient considérés conformes parce que c'est tout à fait possible que l'employeur soit intervenu dans la désignation. Et puis, on a remarqué, puis c'est documenté dans la note de recherche qui a été publiée par Mathieu Charbonneau de l'IRIS, on a remarqué que les informations transmises par les inspecteurs dans les rapports d'intervention n'étaient pas toujours explicites sur la nécessité d'une assemblée et d'un scrutin. Puis, parfois, ça aboutit à des scrutins sans assemblée. Donc sans délibération. Puis parfois la question du scrutin est elle-même évacuée là. C'est mentionné seulement si on clique sur le lien puis qu'on va sur le site de la CNESST. Donc c'est important là, que ce soit bien explicite. Je vais juste terminer en disant que même si on gagnait, on obtenait toutes ces modifications-là au règlement, ça pourrait être un coup d'épée dans l'eau. S'il n'y a pas un contrôle effectif de l'application de ça, puis évidemment, ben, une mobilisation pour permettre d'utiliser ces droits-là. Puis les comités de santé et sécurité, c'est un moyen, hein, c'est pas une fin, puisque avant que ça donne des résultats, ben, il faut il y a beaucoup de travail de terrain qui doit être fait par les représentants des travailleurs et des travailleuses. Merci.
Merci Geneviève.